L'Ascension 1988.
Mystère de l'Ascension, c'est un de ces mystères du ciel sur lesquels on est toujours un peu dans le silence. C'est vrai, pour nous, de notre versant, le mystère de l'Ascension est très négatif. C'est vrai, c'est pour comprendre la transcendance du Christ, c'est merveilleux. Parce que c'est un départ. Alors je crois que la première chose à regarder, ce que j'ai essayé de dire quelques mots cette nuit sur l'Ascension, c'est de comprendre comment, de fait, selon la providence de Dieu, selon la sagesse de Dieu, il y a ce temps curieux, ce temps que la liturgie respecte avec d'une manière très particulière. C'est très vrai que c'est très rare que la liturgie respecte le temps. D'habitude, c'est toujours un peu télescopé, n'est-ce pas ? Vous voyez ça, l'avant, les 9 mois, 1 mois, à peu près, quoi. Je ne sais pas si c'est le rythme pour tout le reste, mais non, puisque toute la vie du Christ, un an. C'est très intéressant de faire ces petits calculs au point de vue liturgique, de voir les télescopages proportionnellement, tu vois. 33 ans, un an, 9 mois, un mois, et puis de temps en temps, la semaine sainte, on respecte la semaine sainte. On se demande historiquement si c'est vraiment ça. Ça, c'est autre chose, tout à fait différent. On veut respecter une semaine sainte. On veut respecter tout le temps. C'est très étonnant. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Tout ce temps. Après le mystère de la résurrection. Alors que théologiquement, on se dit, mais quoi ? Au fond, dès que Jésus est ressuscité, il est auprès du Père. Toujours auprès du Père. Pendant toute sa vie, il était auprès du Père. Mais il était en exil. Ça qu'on ne voit pas assez. C'est un exil très doux, puisque c'était auprès de la très sainte Vierge. C'est quand même un exil. Le temps du Christ. Et nous, nous sommes des étrangers sur la terre. Il ne faut pas oublier que Jésus l'a été le premier. Et volontairement. Une mère étonnante. Je crois que c'est quand même très important pour nous de se rappeler ça, parce que ça enlève énormément pour nous de, j'allais dire, d'attitude, de récrimination de nos droits, quoi. On est toujours assis sur une chaise qui ne tient pas très bien. On est toujours à table sur un... ça ne tient pas très bien. Et alors on cherche la stabilité, puis on est devant une instabilité. Je crois que c'est ce qui caractérise le plus notre monde d'aujourd'hui. La vitesse rend les choses instables. Et tout va très très vite. Il y a une instabilité de tout, de tout. Et c'est dur, hein. C'est très dur pour notre nature humaine d'accepter. Vous voyez, cette manière d'être déraciné. On a de la peine à comprendre que Dieu a déraciné Abraham à 75 ans. Alors, on ne déracine pas les vieux arbres, sauf dans notre monde d'aujourd'hui. Parce qu'on les déracine en portant beaucoup de terre, mais ça, c'est on ne les déracine pas normalement. Or, au fond, c'est quand même très curieux que le mystère de la foi a commencé par ce déracinement. Et on cherche toujours à s'enraciner. Le peuple d'Israël a cherché à s'enraciner. Hein ? on le rappelait hier, cette fameuse parole extraordinaire des Actes des Apôtres, qu'il ne faut jamais oublier, « Quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël ?» Et voyez, je suis persuadé que dans le fond de votre cœur, « Mais quand va-t-on mettre un peu de stabilité quand même hein ?» Quand va-t-on mettre un peu plus de stabilité ? On cherche par tous les moyens de le mettre, mais puis chaque fois qu'on essaie de le faire, le Seigneur déracine, déracine, déracine. Pas commode du tout à vivre, ça. Vous voyez, Saint-Benoît, la stabilité. Saint-Bruno, la stabilité. N'avons pas bien quatrième vœu, la stabilité. Oui, on l'a mis dans le cœur de Marie. C'est dans le cœur de Marie, il n'y a pas d'autre stabilité. Si vous entrez à Saint-Jean pour chercher la stabilité, non, non. Vous entrez dans Saint-Jean pour chercher l'entrée dans le royaume de Dieu. À vivre sur la terre. Et à vivre sur la terre avec tout ce que ça représente aujourd'hui. De secousses. Ce 20e siècle, c'est le siècle qui a été le plus secoué de tous les siècles. Secousse apocalyptique. Et alors nous voudrions, nous, ne pas connaître ces secousses apocalyptiques. Les secousses apocalyptiques dans la vie religieuse, vous voyez ce que c'est. Et dans la vie monastique, chercher à comprendre. Je dis ça, c'est parce que le mystère de l'ascension montre cela, de façon éclatante. Les apôtres veulent retenir Jésus. Quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël ? Ne pars pas avant. Ton œuvre ne serait pas achevée. C'est ça que ça veut dire. Hein ? Parce que pour eux, dans leur conception, l'œuvre du Christ doit s'achever comme ça. Il doit s'achever dans cet enracinement. Et Jésus quitte. Au lieu des apôtres, n'ayant pas fait une œuvre d'une stabilité parfaite. Et si on avait dit aux apôtres que ça devait durer 2000 ans, les apôtres sont fous. Construire une œuvre de 2000 ans avec cette instabilité de 3 ans. C'est fou. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que c'est important pour nous. Autrement, on est toujours dans des... Toujours dans une espèce de petit murmure intérieur par rapport à la stabilité. Le grand murmure de notre monde d'aujourd'hui, je crois, c'est ça. Et ça se répercute immédiatement par rapport à l'espérance. Parce que l'espérance demande la stabilité, demande l'enracinement. Le démon est très habile, très très habile. Il lutte directement contre le point de vue de la vertu théologale d'espérance par ce déracinement. En nous faisant croire que la vertu théologale d'espérance ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas d'enracinement. Et chaque fois, on tombe dans le panneau. Vous voyez, c'est une des choses qui me frappe beaucoup, ça, c'est que le démon ne peut rien contre les vertus théologales. Ça lui échappe complètement. Mais il peut, par rapport à l'enracinement des vertus théologales, le conditionnement des vertus théologales, l'exercice. Et nous croyons que c'est absolument nécessaire que les deux se tiennent l'un par rapport à l'autre. Alors que non. La stabilité de l'Église, c'est une stabilité qui vient d'en haut. C'est une stabilité qui fait que le ciel est sur la terre. Un drôle de ciel, mais c'est quand même le ciel. Le ciel, il est dans notre cœur. C'est cette stabilité-là. Vous voyez ce que les Chartreux avaient très bien compris. En disant que la stabilité, c'est la fidélité. On est stable si on est fidèle. Une fidélité intérieure. Une fidélité aux exigences même de la volonté de Dieu sur nous. Aux exigences même de la volonté du Père sur nous. C'est dans ce sens-là qu'il faut creuser. Alors, cette chose curieuse, pourquoi ce temps ? liturgiques sur lesquels l'Église insiste, de la résurrection à l'ascension. Je crois qu'il y a une raison très importante. Il faut comprendre l'importance du mystère de la résurrection. Il y a l'octave, ce n'est pas suffisant. Il faut tout ce temps. C'est très difficile, vous savez, à digérer la résurrection. Très difficile à comprendre ce que c'est que la résurrection. C'est le mystère des mystères. Puisque si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Comme ça, il faut tout le temps se rappeler ça. Et chaque fois qu'il y a des secousses par rapport à la foi, par rapport à l'espérance, c'est toujours à cause de ça. C'est que nous ne vivons pas actuellement dans notre vie de la résurrection. C'est quand même très impressionnant, hein, que de fait, il y ait tout ce temps liturgique nécessaire. Et vous avez remarqué, quoi, quand on suit un peu la liturgie de ce temps, on voit que c'est tout le temps la résurrection. Et on voit très bien que c'est le mystère même de la résurrection qui doit être vécu pendant ces six dimanches. Le septième par-dessus marché. Le septième, c'est le septième comme l'Apocalypse. Hein. Le septième, il se termine dans le ciel. C'est quand même très curieux, cette ponctuation si nette, si importante, pour insister, c'est la pédagogie du Saint-Esprit. Nous avons de la peine à comprendre le mystère de la résurrection et l'importance du mystère de la résurrection. Comment le mystère de la résurrection, c'est notre mystère. Nous sommes des fils de la résurrection. Nous sommes des enfants de la résurrection, au sens le plus fort. Et dans notre monde d'aujourd'hui, combien c'est nécessaire de comprendre cela, qu'on est lié à la croix, c'est sûr, mais à une croix glorieuse, à une croix qui prend toute sa signification dans le mystère de la gloire. Et que l'Église veut, par sa pédagogie divine, et donc l'Esprit Saint, veut que nous comprenions combien le mystère de la résurrection est important. C'est quelque chose de capital, cela. Il est vivant. Il est ressuscité. Et depuis la résurrection, il n'y a plus de distance entre le Christ et nous. Le Christ pénètre les portes étant fermées. Et nous, nous nous efforçons, parce que la serrure est fermée, de chercher toutes les possibilités d'ouvrir la porte. En disant, tant que la porte n'est pas ouverte, il ne pourra pas pénétrer. Vous voyez, point de vue psychologique, on est comme ça. Tant que je n'arrive pas à recommoder ce point de vue psychologique, mais le Christ ne pourra pas entrer. Je ne pourrai pas faire des actes de foi. Je suis dans l'impossibilité, vous voyez. La psychologie me ligote. Les nécessités psychologiques semblent plus grandes aujourd'hui que l'absolu de la foi. C'est ce qui m'impressionne. Et le Christ entre les portes étant fermées. Symboliquement, c'est merveilleux. Tous les verrous sont mis par crainte des Juifs. C'est extraordinaire. Et Jésus pénètre. Et ça, c'est le mystère de la résurrection. Et il est répété et répété. Et nous sommes, nous tous, tous, chacun d'entre nous, nous sommes tous à croire qu'il faut à tout prix ouvrir d'abord la porte, comme une porte s'ouvre, pour laisser passer Jésus. Il tape derrière, il ne peut pas pénétrer. Regardez, hein, petit examen de conscience, hein, du mystère de la résurrection. Jésus ne peut pénétrer dans notre vie que si, de fait, tout va bien. Je comprends très bien que la prudence humaine est là, il faut toujours la respecter. Elle est dépassée par la foi, complètement dépassée. Elle transcende et on vit deux fois. On ne vit pas au niveau de la prudence humaine. On vit deux fois et on vit d'espérance et on vit d'amour, des vertus théologales. C'est ça qui est si important, je crois, que tout ce temps, après la résurrection, jusqu'à l'ascension, jusqu'à la Pentecôte, c'est nous rappeler ce régime nouveau qui doit s'installer en vie du mystère de la résurrection. Ça, je crois que c'est la première chose qu'on doit découvrir. La seconde, c'est cette gratuité de la miséricorde. Les apparitions, cette condescendance merveilleuse de Jésus pour les apôtres. Et c'est encore, vous voyez, pour aider le mystère de la foi dans la résurrection à s'enraciner. Mais il y a un mode de miséricorde, puisqu'il s'agit d'apaiser cette sensibilité des apôtres qui avait été tellement meurtrie par la croix. Alors il s'agit d'apaiser cette sensibilité. Il s'agit de faire que cette sensibilité des apôtres ne soit pas meurtrie. Et il y a l'onction de l'Esprit Saint. Et cette onction de l'Esprit Saint, c'est justement ces apparitions de Jésus. Paix soit avec vous. Tout de suite, la première affirmation. Et tout ce temps, c'est un temps de paix pour les apôtres. Et vous voyez, c'est ça qui est très extraordinaire, cette paix qui vient d'en haut, même les apôtres l'accaparent. Quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël? Il faut que cette paix intérieure, qui vient de la foi, qui vient des vertus théologales, se réalise dans le royaume d'Israël. Se réalise temporellement. Même cette surabondance d'amour et ces miséricordes de Jésus par les apparitions, les apôtres les accaparent. Ça vaut une peine énorme à vivre dans la pauvreté des vertus théologales. Je crois que les vertus théologales nous apprennent cette pauvreté intérieure, cette pauvreté divine. Terriblement pauvre de vivre de la foi. C'est terriblement pauvre de vivre de l'espérance. Pour permettre à l'amour, l'amour divin, de tout prendre. Et ce temps se termine par ce mystère de l'ascension. Alors, ce mystère de l'ascension, vous savez bien, il est difficile. Très difficile à vivre. En réalité, il n'y a que Marie. Et dans cette année mariale, il faut que nous comprenions ça. Il n'y a que Marie qui l'a vécu pleinement. C'est vrai. Pour Marie, tout est positif dans le mystère de l'Ascension. Tout, absolument tout. Elle est dans une joie avec l'Ascension, mais profonde. Parce que ce mystère montre comment le Père, je ne dis pas récupère son Fils, mais presque, le Père attire Jésus d'une manière telle qu'il ne peut plus être sur la terre. C'est l'impératif catégorique de l'amour le plus fort qui soit. Il est ultime, il est dernier. C'est vraiment l'attraction du Père qui s'exerce d'une manière tout intérieure sur l'âme de Jésus et sur toute l'humanité de Jésus, sur toute son humanité glorifiée. Et pour Marie, c'est la plus grande joie, ça. Être tout entier aux affaires du Père. Marie commence à comprendre la parole de Jésus, cinquième mystère joyeux. Tout entier aux affaires du Père. Et pour être tout entier aux affaires du Père, il faut accepter de ne plus le voir. Comprenez bien, c'est pas pour être tout entier aux affaires du Père qu'il faut nécessairement qu'on ne voit plus. Parce que j'espère qu'un jour nous le reverrons. Et il sera encore tout entier aux affaires du Père. Et nous le verrons dans sa gloire. Mais c'est par rapport à nous. Le mystère de l'ascension, tel que la liturgie nous le donne, c'est la pédagogie ultime de Christ. Dernier enseignement de Jésus. C'est le dernier enseignement. Il faut que ça aille jusque-là pour que nous puissions être entièrement éduqués par l'intérieur, par l'Esprit Saint. Le dernier enseignement de Jésus, c'est le mystère de l'ascension. Et c'est un mystère, vous voyez, du corps glorieux du Christ. C'est pas tellement doctrinal. Pas grand-chose au point de vue doctrinal. C'est pour ça qu'au point de vue de la doctrine, quand vous regardez saint Thomas sur le mystère de l'ascension, vous dites, hein, il dit pas grand-chose. C'est vrai, lisez-le, vous verrez. Il faut le relire de temps en temps. Il dit pas grand-chose. Doctrinalement, la grande doctrine, mais c'est l'Esprit Saint. Alors là, oui, oui. Jésus a donné tout un grand discours sur le paraclet et nous invite à comprendre que ce grand discours sur le paraclet, bien oui, au point de vue doctrinal, c'est l'ultime doctrine. L'ultime doctrine, c'est le mystère du paraclet. Alors que l'ascension, doctrinalement, une fois que vous avez compris, du moins, une fois que vous avez contemplé le mystère de la résurrection, mais oui, vous dites, mais oui, c'est normal, il n'est plus de la terre. Le Christ ne meurt plus, il n'est plus de ce monde avec la résurrection. Il est au-delà, il est dans un monde divin. C'est la Jérusalem céleste. Il nous échappe, vous ne pouvez plus le voir avec vos yeux. Vous ne pouvez plus le toucher avec vos mains. Il échappe. Marie de Magdala, essayez de le reprendre. Ne me touche pas. C'est quand même terrible, nous qui sommes des êtres qui ont besoin de toucher, de palper. Ne me touche pas. Et aux apôtres, il dit la même chose le jour de l'ascension. Alors les apôtres voudraient bien, beaucoup, beaucoup. Les apôtres sont tous un peu comme Élisée, hein. Ce texte si impressionnant qu'on a lu aujourd'hui dans le livre des rois, il faut le lire ce texte, il faut le relire, ce texte si extraordinaire, on va le lire tout à l'heure, parce qu'il est très très beau, c'est une grandeur extraordinaire. On est tous un peu comme Élisée, comme Marie de Magdala. On voudrait quand même garder une petite pièce du vêtement du Christ. Jésus a laissé aux soldats sa tunique. Il n'a même pas eu la miséricorde d'Élie de donner à Pierre la robe sans couture. C'est pour toi. Si tu verras avec cette robe sans couture, tu obtiendras tous les miracles possibles. Pierre aurait bien voulu, ou bien Jean, ou bien Marie. Non. Et toute la différence entre la première alliance et la seconde alliance. Élisée obtient le manteau d'Élie. Il y a un manteau merveilleux, un manteau qui continue de garder la vertu d'Élie. Et Jésus part sans rien laisser. Et quand il ressuscite, ne me touche pas. Et après, ce temps où il continue d'être d'une certaine manière présent, d'une manière tangible, il part. Et les apôtres ne peuvent plus le suivre. Les apôtres restent en attendant. Il reviendra. Il faut que les anges disent ça. Il reviendra comme il est parti. Et on est dans ce creux de la vague. Et on attend le retour. Et on est dans cette attitude d'attente. Et toute l'Église est dans cette attitude d'attente. Vous voyez, comme c'est important pour nous, l'enseignement pratique du mystère de l'ascension. Je vous dis doctrinalement, difficile. La résurrection, oui. La descente du Saint-Esprit, oui. Là, il y a une doctrine de l'ascension. pédagogique. C'est la grande pédagogie de Dieu. Et toute pédagogie chrétienne doit se mettre dans la lumière de l'ascension. Toute pédagogie chrétienne. C'est pour ça qu'on commence une leçon, une session sur l'éducation dans la lumière de l'ascension. Parce que c'est la grande pédagogie de Dieu. Oui, et c'est vrai, c'est très vrai, spéculativement, au point de vue de la doctrine. Mais vous dites, tout est contenu dans la résurrection. Pourquoi ? Pourquoi cette fête de l'ascension ? Si on laissait les théologiens spéculatifs faire la liturgie, ils diraient, rassemblons autour du mystère de la résurrection le mystère de l'ascension. Parce que vraiment, c'est une perte de temps. Et l'Église a fait juste l'inverse. Elle a attendu la semaine sainte, et puis ce temps long, long, pour qu'on comprenne cet enseignement pédagogique du Christ, cet enseignement pratique du Christ. C'est le corps du Christ ressuscité qui remonte au ciel, qui remonte au ciel, qui pour nous remonte au ciel. Qui pour nous va auprès du Père, est assis à la droite du Père. C'est pour nous cela. C'est pour que nous comprenions comment le mystère de l'Église, c'est un mystère d'attente, du retour du Christ. Parce que nous avons une peine énorme à vivre. Puisque au bout de 2000 ans, on risque de dire, mais non, on a compris. On a compris. L'espérance eschatologique, l'espérance du retour du Christ, on a compris. On attend déjà depuis 2000 ans, suffisant. Il faudrait prendre juste l'inverse, comme raisonnement. Vous voyez ce raisonnement que j'aime beaucoup, je l'ai déjà cité, je ne sais pas les chiffres exacts, mais ça importe peu, ce raisonnement du père de Ratisbonne. Il prie, je crois qu'il a prié 30 ans, 35 ans, pour la conversion de son frère, le père Marie. Et quand il rencontre peu de temps avant, un de ses amis qui dit « Je prie depuis 20 ans pour la conversion de mon ami, et parce que je prie depuis 20 ans et que ça ne se fait pas, je commence à désespérer. » Alors le père de Ratisbonne répond, je prie 35 ans pour la conversion de mon frère, et parce qu'il y a 35 ans que je prie, je commence à espérer. C'est tellement beau ça. Eh bien je crois qu'on devrait dire ça. L'Église attend depuis 2000 ans le retour de Christ, et parce qu'il y a 2000 ans, je commence à dire, mais oui c'est maintenant. Notre espérance dit que c'est ça. C'est ça l'espérance eschatologique, cette espérance, puisque l'Église a attendu depuis 2000 ans, les théologiens disent non, vous voyez, sont blasés, ils sont complètement blasés par rapport au retour du Christ. C'est au moment où les théologiens sont blasés que les petits-enfants du cœur de Marie, que les apôtres du cœur de Marie disent mais oui, puisqu'il y a 2000 ans, eh bien je crois qu'on est tout proche. Comme ça, je crois qu'on doit vivre ce mystère de l'ascension. Dans l'année mariale, il y a une dimension qui nous est donnée, que nous devons découvrir. Que nous devons découvrir divinement, sous le souffle de l'Esprit Saint. Parce que l'Église attend depuis si longtemps, et que les théologiens sont fatigués. C'est curieux, c'est quand les théologiens sont fatigués que l'Esprit Saint remplace les théologiens. C'est vrai, aujourd'hui les théologiens sont fatigués. C'est pour ça qu'ils partent dans tous les sens. Vous savez, c'est quand il y a une déroute, ils partent dans tous les sens. On a connu ça pendant la dernière guerre. Au moment de la déroute, tout le monde part dans tous les sens. Et la pauvre troupe, elle suit. Il y en a un qui va à droite, l'autre à gauche. Ils ne savent pas, ils suivent. Aujourd'hui, les théologiens vont dans tous les sens. Alors qu'ils devraient indiquer le chemin. Alors qu'ils devraient montrer le chemin. Ils vont dans tous les sens, la déroute. Alors c'est à ce moment-là où il y a la relève des enfants, des tout-petits, des apôtres des derniers temps. L'année mariale, le mystère de l'ascension. et le mystère de l'Ascension qui nous dit « Il reviendra ». Et ce n'est pas les apôtres qui disent ça, ce n'est pas les théologiens, c'est les anges. Quelque chose qui vient d'en haut. C'est vrai, il reviendra comme il est parti. Il reviendra dans la gloire, dans la puissance, pour montrer ce qu'il est, la victoire de l'amour. C'est la grande victoire de l'amour, le retour du Christ. Au moment le plus creux de l'Église, au moment le plus creux de l'humanité, il reviendra. Au moment où l'humanité sera toute proche de dire « mais oui, suicide généralisé ». Au moment où humainement parlant, il n'y a plus d'espoir. C'est à ce moment-là où l'espérance divine se manifestera dans toute sa force. Le retour de Jésus. Il faut bien comprendre que le mystère de l'Ascension, c'est le mystère le plus pratique qui soit pour notre foi. Il n'y a rien au plan spéculatif. Mais rien. C'est extraordinaire. Je trouve ça très très beau. Quand je dis qu'il n'y a rien au point de vue spéculatif, vous voyez, il n'y a rien au point de vue conceptuel. On disait tout à l'heure, en arrivant ici, qu'on pourrait dire que, comprenez bien l'analogie, très grosse analogie. Et on peut, simplement, on fait comme ça. Que la résurrection, oui, c'est la substance de notre foi. L'ascension, c'est l'acte. C'est le terme. C'est le terme du pèlerinage du Christ. Alors, on ne sait plus. On ne peut plus réfléchir dessus. Il faut le vivre. C'est pour ça que je dis que c'est pratique. C'est pratique mystiquement. Divinement pratique. C'est le grand mystère de l'espérance. Vous savez bien, la foi, ça s'explique. L'espérance, non. Ce que dit Peggy là-dessus, c'est pas un théologien, mais c'est quelqu'un qui a senti certaines choses. L'espérance, dans un monde comme celui-ci, c'est de la folie. C'est de la folie d'espérer, de construire encore quelque chose de nouveau. Commencer la congrégation Saint-Jean, mais c'est de la folie. Heureusement que Marthe était là. J'aurais jamais fait, vous savez, point de vue de ma prudence. Jamais. Marthe dit oui. Il faut comprendre ça. C'est l'acte. Ce qu'il y a d'ultime. Mais c'est impossible à saisir quiditativement, comme on dirait en philosophie. C'est impossible de saisir la chose. C'est une folie divine. C'est un feu d'artifice divin. Folie divine. C'est ça que Marie fait. C'est extraordinaire ce que Marie fait. C'est pour ça que je crois que c'est tellement important pour nous ce mystère de l'Ascension, point de vue pratique, dans notre espérance. C'est le grand mystère de l'espérance. Et parce que c'est le grand mystère de l'espérance, c'est un mystère qui de fait exige de nous d'être toujours au-delà de ce qui nous semble raisonnable. Dans l'ordre pratique, au-delà. C'est comme ça qu'on vit l'ascension. C'est comme ça qu'on attend le retour du Christ. Autrement, on ne l'attend pas, on s'est installé. C'est toujours un danger de s'installer. Au bout de 10 ans, on s'installe. Alors, non. Et c'est pour ça que Marie secoue. Pour qu'on ne s'installe pas. Parce que si on s'installe, c'est fini. Plus la peine. Il y a beaucoup d'ordres installés. Mais ils sont installés parce qu'ils devaient s'installer. Et si Marie veut susciter quelque chose aujourd'hui, elle ne peut pas. Elle est accrochée au mystère de l'ascension. À ce mystère de Jésus qui n'explique rien et qui s'en va. C'est très grand, ce mystère de l'ascension, dans l'ordre pratique. C'est très exigeant. Parce que ça exige cette pauvreté de pauvre, cette espérance de pauvre. Ça exige d'être suspendu à Jésus, au plus intime de notre cœur. C'est ça l'espérance, une encre. C'est vraiment une encre. C'est la plus grande des certitudes. Mais en même temps, dans une totale pauvreté. Réfléchissez un peu à ça. Vous verrez combien c'est comme ça que Dieu vous mène ici. Vous n'avez pas encore compris. C'est comme ça qu'il vous mène. Parce que nous restons tous, mais oui, c'est qu'on est vous. Au bout de quelques années d'études, on désire avoir un bagage, un avoir, des diplômes. Un avoir, quoi. Puis au bout de 7 ans d'études, 6 ans d'études, on n'a rien. Alors, si on avait fait d'autres études mathématiques, d'ingénieur, on aurait au moins quelque chose. Rien. C'est terriblement appauvrissant, les études théologiques. Si on les fait bien, c'est-à-dire de façon contemplative, si on les fait divinement, c'est terriblement appauvrissant. Et toute notre vie apostolique, c'est comme ça. Le jour où on cherche une vie apostolique qui nous enrichit, c'est fini. On fait notre œuvre. Et si on fait notre œuvre, on ne fait plus l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que par définition, l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas notre œuvre. Mais c'est rude pour notre nature humaine. Mais c'est très rude, ça. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Il y a des liens de charité fraternelle. Il y a des liens avec Marie. Il y a cette force intérieure qui vient du mystère de l'ascension, qui vient d'en haut, qui ne vient pas d'en bas. Il faut entrer dans ce mystère de l'ascension le plus qu'on peut. Alors, une des grandes préfigurations. Parce que c'est raide, hein, les actes des apôtres. Le texte de Saint-Luc, c'est raide. Ça ne dit pas grand-chose. Un départ, mais un départ, le départ. Il n'y a pas 36 départs, il y en a un. C'est le départ, c'est Jésus qui quitte visiblement notre monde. Mais c'est extraordinaire, je ne vous laisserai pas orphelin, non ? Il quitte, il laisse Marie. Si on a Marie, on n'est pas orphelin. Il donne l'Esprit Saint avec Marie, par elle. La grande médiation de Marie, c'est l'Esprit Saint. Pour que nous ayons une vie nouvelle. Mais le départ est solennel. Prend toute sa force ce départ. Les apôtres ont été témoins. Ils l'ont vécu, ça. Je suis persuadé, on aurait demandé à la fin de sa vie à Saint Jean qu'est-ce qu'il a vécu le jour de l'ascension, comparativement à la résurrection, comparativement à la rencontre première qu'il avait faite avec Jésus auprès de Jean-Baptiste. Il y a des mystères de présence et un mystère de départ. Et le mystère de départ, c'est pour une présence toute intérieure, toute divine. Une présence toute divine incarnée. Et une présence divine qui met en nous une attente, un creux. Ça creuse. L'absence, ça creuse toujours. Ça creuse pour qu'il y ait un appel plus fort, un appel plus puissant. Et cet appel, c'est le retour de Jésus. Il reviendra. Alors, regardons cette préfiguration. C'est bon aujourd'hui de la lire et de la relire. Donc, deuxième livre des Rois, chapitre 2. Or, quand Yahvé fit monter Élie au ciel, dans la tempête, Élie et Élisée s'en allaient du Guigal. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car Yahvé m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée dit, « Par la vie d'Yahvé et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Élisée, en ami, sent la situation est grave. Ce n'est pas un départ comme un autre. Curieux, ça. Les apôtres ont senti ça. Et nous devons le sentir. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui Yahvé va prendre ton maître par-dessus ta tête ?» Il dit, « Moi aussi, je sais. Silence. » Un secret. C'est un secret. L'ascension. Secret dans l'ordre pratique dans notre vie. C'est le grand secret de notre espérance. Alors est-ce que l'ascension est un mystère qui est un secret pour vous? Un secret, c'est-à-dire quelque chose qui nous lie et qui permet de vivre la séparation. Quand le secret est substantiel, c'est-à-dire quand il prend tout notre cœur, le secret permet l'absence parce qu'il fait vivre de la présence dans l'absence. C'est ça le secret. C'est la présence de celui qu'on aime qui peut s'absenter, il est toujours présent, plus intime de nous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car Yahvé m'envoie à Jéricho. Et celui-ci dit, par la vie d'Yahvé, et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'avancèrent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui Yahvé va prendre ton maître par-dessus ta tête ?» Le « par-dessus ta tête » est très joli, voyez. Il dit, « Moi aussi je sais, silence. » Élie dit, reste ici, je te prie, car Yahvé m'envoie au Jourdain. Et celui-ci dit, par la vie d'Yahvé, par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Ils s'en allèrent tous deux. Curieux, hein? Ce langage de Dieu, très déroutant. On dirait, Élie est très agité. Il veut fuir à toute vitesse, partout. Élisée, sans, il ne faut pas, Vous voyez la logique, hein? Il est là-dedans complètement dépassé. Trois lieux différents. 50 des fils de prophètes allèrent se poster en face, à distance, tandis que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Il y prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se divisèrent de part et d'autre part. Et ils passèrent tous deux sur la terre ferme. Alors le Jourdain, toujours ce passage du Jourdain, dernier passage, la mer Rouge. Vous voyez, on voit très bien toutes ces choses qui reviennent symboliquement. Une division. Des eaux pour le passage. Tu demandes une chose difficile, dit Élie. Si tu me vois pendant si tu me vois, pendant que je serai pris d'auprès de toi, il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. Langage énigmatique, hein ? Vous voyez ce que ça veut dire ? La fidélité, à travers tout. Même si tu ne comprends rien, fidélité. Donc, si je disparais pendant que tu es là, fidèle, alors, ne t'inquiète pas. Vous voyez comment la fidélité fait le lien. Garder un secret, c'est la fidélité. Communiquer un secret qu'on ne doit pas communiquer, c'est de la trahison. C'est curieux, ce mystère du secret, qui est si fort, et qu'on ne connaît plus beaucoup, hélas. Les premiers chrétiens comprenaient ça très bien. L'Eucharistie était leur secret. Et les dernières paroles de Jésus sont des secrets. Et le danger de la théologie, c'est de supprimer les secrets, tu vois. Croire qu'on peut tout dire. Non, il y a des secrets. La théologie doit être gardienne des secrets. La théologie scientifique est gardienne des secrets. Et permet à la foi vivante, sous l'action de l'Esprit Saint, de garder les secrets. Parce que c'est assez net. Hein. Tu demandes une chose difficile. Oui, attendez. Élie, je reprends un peu. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux. Donc, les eaux se divisent. Lors donc qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande, que puis-je faire pour toi avant que sois pris d'auprès de toi? Avant que je sois pris d'auprès de toi. Élisée dit, puis-je avoir double part de ton esprit. Tu demandes une chose difficile, dit Élie. Tu me vois pendant que je serai pris d'auprès de toi. Il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. Or, comme il marchait tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Donc ils sont séparés par le char de feu. Donc ils ne sont pas séparés. Puisque le char de feu représente l'amour. Alors l'amour ne sépare jamais. L'amour peut exiger deux exercices différents. Mais l'unité demeure. Vous voyez, quand nous devons maintenir notre vie contemplative et être tout entier apôtre, c'est le char de feu qui passe entre deux. Ça ne divise pas. L'unité demeure. Parce qu'au fond, ici, c'est la même chose. Hein. Élisée doit demeurer apôtre. Élie, il a terminé. Il peut être un pur contemplatif. C'est ça, Élie, Élisée. Hein. D'une autre manière, beaucoup plus forte, Marthe et Marie. Élie, Élisée, c'est bien ça, celui qui reste sur la terre. Notre vie apostolique nous demande de rester sur la terre. Saint Paul l'a dit d'une façon très nette. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'être auprès de Jésus. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'être ravi par lui. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de partir avec Élie, surtout aujourd'hui. Dans l'ascension, on n'a que ce désir-là. Je n'ai que ce désir-là. Et pourtant, j'accepte de rester sur la terre à cause de mes frères. Alors donne-moi le double de ton esprit. Hein. Double part, pour être sûr de ne pas dévier. On dévie si facilement quand on est pris par la vie apostolique. Donne-moi le double part. C'est très très beau, c'est tellement vécu ça. C'est le drame de la vie apostolique, hein. C'est le drame de la vie chrétienne. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est tout le temps ça. C'est dit d'une autre manière, mais c'est ça. Et c'est vécu à travers les hommes, puisque l'Esprit Saint se sert des hommes pour nous faire comprendre le mystère de Dieu. Oh, comme il marchait tout en parlant. charité fraternelle et la vie contemplative. Comme ils marchaient tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et il y monta au ciel dans la tempête. Ce que voyant Élisée criait « Mon père !» Vous voyez la paternité. « Mon père ! Mon père !» Char d'Israël et sa cavalerie. Parce que la vie contemplative est enveloppée de cela, cette nuée. Et la paternité est enveloppée du char d'Israël et sa cavalerie. C'est assez extraordinaire, hein ? C'est pas étonnant. La vie contemplative, c'est une grande lutte. On n'est contemplatif que dans la lutte ici sur la terre. Hein ? C'est pas le ronron du chat près du feu. Non, c'est pas ça du tout. C'est le vol de l'aigle. Vous voyez la tempête, enlevée dans la tempête. Et Élisée comprend. Char d'Israël et sa cavalerie. Marie plus terrible qu'une armée rangée en bataille. Notre vie contemplative, elle est enveloppée de Marie. Enveloppée du mystère de l'Assomption. C'est comme ça que Marie vit le mystère de l'Ascension. Elle est enveloppée de ce mystère. Puis, il ne le vit plus. Il saisit ses habits et les déchira en deux morceaux. Il ramassa le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui. Et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Ah, qu'est-ce qui reste ? Un manteau. Le linceul de Turin. C'est le manteau, le dernier manteau de Jésus. C'est la seule chose qui reste. Comme petit signe. Pour les petits derniers. Ils en ont besoin. Jean en a eu besoin. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin de ce manteau qui reste. Il ne faut pas recevoir dans la pauvreté, hein. Mais le double de l'esprit, tu demandes une chose difficile, le double de l'esprit, quand même mystérieuse, hein. Ce lien entre Élisée et Élie, ce lien qui demeure, entre Jésus et Jean à l'Ascension, entre Jésus et Marie, notre véritable Élisée. C'est bien Jean qui reçoit le double de l'esprit et qui doit accepter que le manteau du Christ sans couture soit pris par les soldats. Normalement, c'est la part d'héritage de Jean. Part d'héritage de Jean et de Pierre, divisé en deux. Il reçoit le double d'esprit. C'est l'amour dans l'unité. Il ramasse le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, comme on assiste. Hein. Il frappa les eaux qui ne se divisèrent pas. Il dit, où est Yahvé, le Dieu d'Élie ? Il frappa les eaux qui se divisèrent de part et d'autre. Et Élisée passa. Les fils de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. Ils revinrent à sa rencontre et se prosternèrent à terre devant lui et lui dirent, il y a justement ici, parmi tes serviteurs, 50 hommes vaillants. Dans toute la suite, pour chercher, mais en vain, il n'est plus de ce monde. Vous voyez, l'esprit du Christ, ce temps de l'ascension à la Pentecôte, qui nous est promis, tel qu'il a été donné à Jean. Il faut faut le recevoir de cette manière-là, tel qu'il a été donné à Marie. Il faut le recevoir avec la même intensité. C'est bien un départ, la fin ultime, dernière du pèlerinage du Christ sur la terre. Le terme. Toute la prédication du Christ se termine par le mystère de l'ascension. Toute la prédication du Christ. Et ça se termine, j'allais dire, corporellement, dans un corps glorifié, mais corporellement, substantiellement dans le corps du Christ. Ce corps du Christ qui ne peut plus rester sur la terre, qui doit être auprès du Père. Assis à la droite du Père, le symbolisme de la cession, là la stabilité. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Assis à la droite du Père. Pour montrer qu'il reçoit du Père toute autorité. Et pour exercer lui-même l'autorité du Père sur tous les hommes, sur l'Église. Il faut que nous demandions à la Vierge Marie, elle qui a reçu le double de l'Esprit, c'est aussi Élysée, hein, pas l'oublier, de vivre ce mystère de l'ascension dans la pauvreté. Demandons aujourd'hui de nous donner cette pauvreté intérieure, toujours plus grande, pour rester dans une fidélité toujours plus grande. Fidélité dans l'attente du retour de Jésus. En comprenant que notre seule espérance, elle est dans le cœur de Marie, pour nous fixer dans le cœur blessé et glorifié de l'agneau, pour nous fixer auprès du Père. C'est là notre lieu.